Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour, bienvenue chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Jean-François Ladjé.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Architecte urbaniste de l'État qui nous conte la vie et l'histoire de Toulouse depuis les origines. Et nous étions donc la semaine dernière sur les Visigoths et donc aujourd'hui on est Toulouse capitale Visigothe. Ils s'installent. Comment vivent-ils dans cette ville et comment l'aménagent-ils ?
Oui, les Visigoths sont là. Et puis, eh bien, ils désignent Toulouse pour être finalement le siège du pouvoir. Pour des raisons que sans doute Jean-François va nous rappeler. Et puis, moi, les questions aussi que j'aimerais poser, c'est dans quelle ville arrive-t-il ? Une ville romanisée, comment ça se passe ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'ils sont accueillis à bras ouverts ? L'intégration se fait bien, Jean-François ?
Alors, plusieurs questions. Rappeler effectivement les raisons de ce choix. Je l'ai dit brièvement la fois dernière, mais je pense que c'est important d'y revenir. Tu as raison, Aline, parce que le territoire qui leur est confié par Honorius, l'empereur romain d'Occident, est un territoire qui correspond un peu à l'Aquitaine. Et sincèrement, c'est Bordeaux qui est géographiquement central et qui en plus est une ville administrative importante d'origine romaine. Et d'ailleurs, au départ, le premier roi, Valia, séjourne probablement à Bordeaux. Et très rapidement, dès l'année d'après, c'est son fils qui lui succède, Théodoric Ier, choisit effectivement Toulouse, Aline. Et c'est là qu'on retrouve un peu le fil des émissions précédentes, c'est-à-dire ce rôle de plaque tournante, de cœur géographique de l'isthme entre mer Méditerranée, Atlantique, et à mi-chemin entre Pyrénées et Massif central, c'est-à-dire un carrefour de route très important. La Garonne, ses passages à gué. On a vu, lors de la saison dernière, dans toute l'importance du commerce, dès avant la période romaine, et les Visigoths ne sont pas stupides, ils comprennent très bien l'intérêt de Toulouse, de ce point de vue-là. Je reviens aussi sur le fait que, on en a parlé la semaine dernière, les Visigoths, ce n'est pas des barbares avec des cheveux hirsutes et qui manient. Ils sont pratiquement romanisés déjà.
Oui, ils se sont frottés au monde romain.
Ils ont passé tellement de temps déjà sur la frontière de l'Empire au niveau du Danube, puis intégrés à l'Empire avec toutes les péripéties dont j'ai tracé quelques-unes la fois d'avant. Mais la plupart, enfin, en tous les cas, les élites parlent le latin, voire le grec, puisqu'ils étaient dans la partie orientale de l'Empire. Donc il ne faut pas du tout imaginer des barbares sauvages, etc. Donc ils comprennent tout ça, et ce qu'ils veulent, et ce qui ne leur a pas été attribué par Honorius, c'est le port de Narbonne. Enfin, Narbonne, ou Arles et Narbonne.
La sortie sur la Méditerranée.
En fait, la sortie, le débouché commercial sur la Méditerranée. Narbonne, évidemment, puisque c'est par rapport à leur territoire le plus près. Et le choix de Toulouse est probablement un peu la conjonction de tous ces éléments-là, c'est-à-dire, on ne va pas complètement faire l'histoire des Visigoths, puisque notre propos, c'est Toulouse, mais ils ne cesseront, jusqu'à y arriver, d'harceler Narbonne, et du coup les garnisons à Rome, à Narbonne, jusqu'à s'emparer du port. Donc si on revient à Toulouse, ta deuxième question,
oui,
c'est...
Oui, alors, la question que je me pose, c'est... on arrive dans une ville qui est déjà organisée, qui est déjà gouvernée. Comment est-ce que les Visigoths vont s'insérer là-dedans ?
Comment ces gens vont cohabiter ? Alors, ils arrivent dans une ville qui est une ville donc gallo-romaine. Hein, on en a abondamment parlé, c'est-à-dire avec un mélange déjà depuis plusieurs siècles entre des populations locales qui étaient déjà, vous rappelez, un mélange de populations locales avec différentes vagues de migration, plus les marchands orientaux, les Grecs de Marseille, etc. etc. Sont venus dans ce creuset de population, ça voûtait les Romains, mais on est vers 400, là, c'est-à-dire que ça fait plus de 4 siècles que la ville est romanisée. Donc on parle de gallo-romains. Deuxième élément, c'est que cette ville très organisée, on l'avait vu avec son plan orthogonal, ses monuments, etc., on avait vu le IVe siècle, c'est-à-dire la christianisation, la destruction des temples, la construction de l'Église, et donc un pouvoir qui désormais, avec les réformes d'abord de Constantin, mais surtout de Théodose, empereur romain, le Théodose Ier, celui d'ailleurs qui avait fait rentrer les Visigoths dans l'Empire côté oriental, l'évêque est le personnage central de la ville. C'est lui qui dirige la ville. C'est-à-dire, on n'a pas de traces matérielles très précises. Hein, j'évoque régulièrement Chytricase par rapport à cette hypothèse qui est que vraisemblablement la première maison épiscopale, les premières églises, enfin, tout ce qui fait le quartier épiscopal est vraisemblablement à Saint-Étienne. Il n'est pas à Saint-Sernin. Mais pour autant, voilà. Et la population locale est une population de rite, donc chrétienne, mais de rite nicéen.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, on l'avait évoqué, c'est-à-dire à la suite du concile de Nicée, la doctrine, donc, voilà, doctrine orthodoxe.
Alors, si on en revient à la ville elle-même, est-ce que la ville va changer ? Est-ce qu'on va ouvrir des rues ? Est-ce qu'on va rester dans le parcellaire romain avec les voies orthogonales ?
Les Visigoths, comment dire...
Est-ce qu'il y a des vestiges d'une occupation visigothe à l'heure actuelle ?
Alors, les vestiges d'une occupation visigothe,
organisé,
c'est essentiellement l'hypothèse du palais. Puisque
qui
dit capitale royale dit un palais. Et les fondations d'un palais du 5e siècle qui ont été trouvées dans les années 88-89...
Une place
lors
de
des
Bologne.
Fouilles archéologiques, oui, conduites avant la construction de la place de Bologne, c'est-à-dire qui s'ouvre entre le conservatoire régional et la place Saint-Pierre, tout cet îlot-là, cet îlot dit l'arrêt, c'est-à-dire l'ancien hôpital militaire, les archéologues ont retrouvé des fondations très très importantes de bâtiments, d'un bâtiment palatial. Alors,
les vues aériennes sont très parlantes.
Les vues aériennes, en effet, sont très parlantes. Alors, les archéologues et les historiens sont très prudents parce qu'on n'a pas de traces écrites du fait que c'est bien le palais Visigoth, mais entre les vestiges retrouvés, ce complexe palatial et le fait qu'il est daté du 5e siècle, on imagine mal qu'il soit un palais qui ne soit pas le palais Visigoth.
En tous les cas, il y a des relations écrites, puisque... quel est l'auteur
Sidone Apollinaire
a rencontré Théodoric.
Tout à fait,
fait une description d'ailleurs très flatteuse de la cour de Théodoric.
Oui, parce que Théodoric...
Il ne parle pas du palais.
Oui. Alors, il parle du palais, mais il en parle en négatif. Quoi. C'est-à-dire, en fait, il parle de la vie. De la vie
de
au
l'organisation.
Palais.
Ouais,
exactement. C'est-à-dire du cérémonial, de la manière dont le palais vit. Et effectivement, c'est une description qui est fabuleuse. Malheureusement pour nous, on ne chemine pas dans cette description dans le palais.
Du coup,
on ne peut pas corréler les textes de Sidone Apollinaire. Alors, Sidone Apollinaire, juste pour nos auditeurs, c'est un éminent personnage gallo-romain, justement, originaire de la région lyonnaise, évêque de Clermont. Enfin, c'est un homme politique très en cours à Rome. Mais et tu as raison de le dire.
Il est très flatteur.
Très flatteur vis-à-vis de Théodoric.
Mais Théodoric.
Il a grandi dans un milieu romain. C'est-à-dire que. Voilà, et du coup, par rapport à ta question sur la cohabitation, ce qui aurait pu être un problème entre la population gallo-romaine et la nouvelle population visigothe, c'est la différence de rite chrétien. Puisque les Visigoths, eux, venaient de la part orientale de l'Empire, qui était. Malgré les interdits, donc c'était une hérésie. Ils sont hérétiques, c'est-à-dire depuis Nicée, le christianisme arien est considéré comme hérétique. Mais Théodoric s'en fiche comme de sa première chemise.
Alors,
il veut de bonnes relations entre les deux populations. C'est l'évêque de Rome qui, après le Fédus, donc l'installation de 416, ne nomme pas de successeur à Exupère. C'est-à-dire
Exupère
est évêque. Quand il meurt, il s'est retiré quand les Visigoths sont arrivés, il s'est retiré à Blagnac, selon la tradition. Il y meurt. Il n'est pas remplacé. Et pendant tout le temps, le siècle que va durer Toulouse capitale, il n'y a pas d'évêque nicéen envoyé par le pape de Rome à Toulouse.
C'est-à-dire qu'on ne va pas au conflit.
On ne va pas au conflit. Mais Théodoric...
On se
respecte, on se supporte. Et Théodoric, d'ailleurs, s'entoure de gens comme Saint Orens, l'évêque d'Auch, qui lui est nicéen, il s'entend très bien avec lui, ça ne pose pas de problème. Donc il cherche vraiment la paix. C'est un peu plus compliqué dans les campagnes pour les mêmes raisons que ce qu'on avait vu au moment d'installation, c'est-à-dire que l'aristocratie foncière n'est pas du tout partante pour céder des terres aux Visigoths. Mais dans la ville, la ville accueille sans doute une population visigothe qui gravite autour de la cour royale.
Et qui est très romanisée.
Et qui était très romanisée, la plupart par le latin. Je vous dis même quelquefois le grec. Donc, par rapport à ta question sur les changements...
J'en profite peut-être pour dire que les barbares, je fais une petite parenthèse, sont des borborythmes, d'où le mot barbare.
Oui.
C'est-à-dire qu'on ne comprend pas.
On ne comprend pas, on ne comprend pas le goût. Mais comme ils sont la plupart bilingues, en tous les cas à Toulouse, ils se mettent dans les chaussures des Romains. À part le palais... On a très peu de découvertes, mais ça c'est aussi le fait de l'archéologie, c'est-à-dire on tombe sur quelques objets par-ci par-là, il y a assez peu de choses. Puis les Francs ont quand même, on verra que par la suite l'héritage visigoth, on verra peut-être la prochaine fois l'église de la Douane. Mais finalement, ils s'installent dans le cadre de la ville romaine. Ils ne créent pas des rues, ils ne créent pas des places. Donc, enfin, en tous les cas, on n'a pas connaissance aujourd'hui.
Est-ce que c'est une ville riche ? Est-ce que c'est une ville qui est en bonne santé ?
Oui.
Sur
le plan économique, c'est une ville en très bonne santé.
Et peuplée ?
Elle est peuplée, elle s'est repeuplée. Et donc, on peut... on va peut-être finir, Aline, la séance sur cet aspect-là.
Donc, une intégration réussie.
C'est une intégration réussie au début, les premières décennies. On verra la prochaine fois que ça va se gâter. Mais au départ, c'est une intégration plutôt...
C'est la lune de miel. La lune de miel.
Oui, enfin, peut-être pas jusque-là, quand même. Mais on n'a pas connaissance de conflits... particulier et la ville est une capitale, il y a des ambassades, il y a des... c'est une ville prospère, une capitale prospère.
Très bien.
Voilà, Aline.
Très
Merci beaucoup à Jean-François et à Aline. Bonne semaine à tous.